C'est le sixième numéro de Comedy News Podcast et cette semaine, il y a énormément de choses. On va même genre avoir l'air d'une vraie émission parce que on va faire un peu la suite de ce qui a été raconté la semaine passée. Oui, mesdames, je n'ai pas écouté la semaine passée, comme une majorité de francophones d'ailleurs, mais c'est gratuit, c'est sur iTunes ou sur podomatic.com. Et je suis pas tout seul parce que si j'étais tout seul, ce podcast-là durerait environ 6 secondes parce que je fais aucun du boulot, rien du boulot. C'est Anthony Mirelli qui check toutes les news. Salut Anthony.
Salut Dan.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ouais, ça va ben, super bien. La semaine passée, on parlait de... On a fait à peu près genre trop de minutes sur le titre du spectacle de Arnaud Cosson. Ouais. Tout est bon dans le Cosson. Et je sais pas si je l'avais dit dans le podcast, mais j'allais animer une soirée où ouais. il allait faire un extra. C'est le stand-up haircut. C'est le deuxième numéro. Ça va arriver sur YouTube, d'ailleurs. Et c'était au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Et donc, je le vois, je lui dis bonjour, je vais passer un peu auprès de tout le monde, mais je vais faire 2-3 vidéos. Puis à un moment donné, je vois qu'il est en train de discuter avec des gens que je connais. Et il me regarde, il fait « Comme ça, tu m'as démonté dans un podcast. » Et tu sais que ça va... Dès que tu dis quelque chose sur quelqu'un, tu sais que ça va arriver à ses oreilles, tu vois. Et je fais « Ben, écoute, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ton spectacle était très drôle. Et moi, ce que j'ai dit,
ben,
c'est
tu
que...
l'as dit, ça.
Ben, ça, ouais, c'est ça.
Podcast, ouais.
Que j'irais jamais le voir. Tant que t'avais le titre « Tout est bon dans le costume. » Je dis « Man, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? » Je veux quand même savoir. Ouais. Et je peux pas croire que t'as trouvé que c'était un bon titre. Il dit honnêtement, on voulait juste quelque chose que les gens retiennent. Puis il dit, ça a tellement bien marché que quand les gens me voient, ils me disent pas, ah tiens, c'est Arnaud Cosson. Ils me pointent en disant, tout est bon dans le Cosson!
Et la honte dans le métro.
Donc je sais pas à quel point c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais il est super bien. Franchement, les rumeurs étaient vraies. Moi, je suis vraiment bien marré en checkant son truc. Et je me suis aussi permis de lui donner nos suggestions pour le titre de son prochain spectacle. Et je pense qu'il a pas kiffé à 100% quand même.
Tu m'étonnes. Même pas copain comme Cosson.
Copain comme Cosson, ça allait. Celui-là, je crois qu'il a fait le plus rire. C'est, j'ai dit, si ta carrière genre s'arrête pendant un petit temps et que tu reviens, tu pourrais l'appeler genre « Cosson-t-il devenu ?» Celui-là a semblé avoir un peu de résonance. Et dans son, il nous expliquait que dans son spectacle, il commence plus ou moins en disant « Donc, le spectacle s'appelle « Tout est bon dans le Cosson ». Sinon, le spectacle est drôle. Hein. Il y a pas de... Donc, clairement, il était lucide sur le titre du spectacle. Et mine de rien, c'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé de beaucoup d'autres spectacles, autant qu'on a parlé du sien. Et c'est juste à cause du titre, parce qu'on l'avait vu ni un ni l'autre.
Ouais. C'est vrai.
Donc, tant qu'à ça, bien joué. La morale de cette histoire...
Mais lui, il a fait combo affiche titre de spectacle.
Mais il le fait plus parce que sur son affiche, il finger fuck un cochon.
En dessin, ouais.
Mais oui, oui.
Heureusement.
Oui, bonne précision, ça. Mais il y a arrêté parce qu'il dit que ça faisait quand même un peu.
Ouais, il y en a une deuxième où le cochon est sur son épaule. C'est pas celle-là. Voilà.
C'est un peu mieux. Puis le pire, c'est qu'il y a pas. Je suis pas vraiment fan de jeux de mots, quoi. Ben, ça paraît pas tant que ça dans ton, dans ton titre. Mais c'est vrai que c'est bien joué. Fait, même si tu l'appelles genre de retour. Dans l'arène, tout le monde s'en fout de ton titre de spectacle. Donc, tant qu'à faire, aussi bien le gaspiller pour un truc
ouais, c'est vrai.
Un peu marquant.
Faut qu'il rebondisse aussi après. Ouais.
Ah, c'est ça, c'est... Ça te met... Ça t'amène à la ligne de départ, tu vois, il y a des attentes. Et on a demandé sur Twitter les meilleures idées. Et tu sais quoi, je pense, si on peut commencer le podcast tout le temps, comme ça, les meilleurs jeux de mots, parce qu'il y a une passion injustifiée en France pour le jeu de mots. Et moi, je veux bien un jeu de mots, mais à partir du moment où il y a un vrai double sens, tu vois.
Il y en a qui sont pas logiques, hein, dans la liste ici.
On dirait, en fait, il y a des types de spectacles qui ressemblent à des noms de resto ou à des noms de salons de coiffure, tu vois. tout ce qui... Tiff et taf...
Tu vois, Tumblr avec tous des noms de salons de coiffure.
Ah oui?
Il faudrait que je retrouve ce machin-là.
Ben, avec grand plaisir, et mets-le sur le truc. Et la communauté des gens qui détestent les jeux de mots s'est réveillée. Et on en a eu quelques-uns. Je te laisse les lire, c'est toi qui les a compilés.
C'est pas vraiment un jeu de mots, le premier, c'est Muriel Robin.
Ouais.
C'est juste Muriel Robin revient et il y a une bulle qui dit « Tsoin, tsoin ». Est-ce que c'était nécessaire?
Oh, c'est tout ce qui manquait, c'est Muriel Robin revient, poil pubien.
Putain, mais c'est pas possible, dirais. Je comprends pas. En plus, dans une bulle, enfin vraiment.
Oui, mais c'est parce que c'est très cartoon. C'est pour signifier, tu vois, le côté. Je sais pas, man. J'essaie d'expliquer, mais j'avais rien.
Un des moins pires, c'est moi la plus belge, Nawel Madani.
Oui, ça fait.
Mais je la connais pas. Elle est belge.
Elle, oui, elle est belge, à la base.
Ah, parce que sinon, c'est bien con comme nom.
Oui, mais moi, ça me ferait encore plus rire, personnellement. Si c'est moi la plus belge et que la personne n'est pas belge, Moi, ça me ferait marrer, mais ouais. Je pense qu'on serait deux à trouver ça marrant.
Ben, toi et elle, quoi. Il y a les glandeurs nature. Celui-là... Ça, c'est un nom de duo de l'émission de Ruquier, tu vois.
Ah, c'est pas ça?
Non, je pense pas.
Parce que j'étais convaincu que c'était ça.
Il faudrait checker.
Les glandeurs nature.
Parce que dans les... il y en a aussi, il faudrait les reprendre rien que ceux de l'émission. Tu vois, les mecs qui s'appellent les « Qui c'est qui a fait ça ?» Tu vois, c'est quoi? C'est une fille, un mec qui a... Je sais pas, moi.
Ah, mais c'est...
Déjà, il y a des concepts, genre l'Ascarguet, le nom est pas drôle ni pourri, mais pourquoi?
Ben, au moins, eux, ça explique... Ben, je trouve que ça explique au moins ce qu'ils font. C'est super clair. C'est le titre, il est très, très explicatif. Ouais, mais... Soit tu es très poétique ou tu es très explicatif, tu vois. Genre, Heinz, tu sais pas que ça va être du ketchup, mais c'était le nom de la compagnie, tu vois. Et puis, genre, je sais pas, branle-toi ici, tu comprends que c'est un truc de pipi.
Ils vont faire leur carrière entière en training sur... enfin, en survêtement sur scène, quoi.
Ah, mais... Pourquoi pas?
Ou alors après, ils changent de nom, et ils s'appellent les aristocrates, et ils font trois spectacles comme ça, et puis ils s'appellent les... je sais pas.
Ils font le gag des aristocrates, mais pendant une heure.
Puis ils se mêlent aux glandeurs nature.
Ça fait les lascars nature ou les glandeurs gays.
Et alors, il y en a un autre, c'est « Au bout du rouleau, il y a le printemps ». Ça veut rien dire.
Au bout de... Laisse-moi deviner. Est-ce que l'interprète de ce spectacle serait d'origine asiatique par hasard?
Exactement. Alex Nguyen.
Donc, au bout de... Mais pour qu'un jeu de mots marche, il faut que ça fasse du sens. Donc, est-ce qu'il est question de printemps dans son spectacle? Ou est-ce qu'il est question d'un gars fatigué dans son spectacle?
Il a intérêt à être déprimé parce que s'il est au bout du rouleau...
Ou de cuisine asiatique, tu vois. Parce que si c'est aucun des trois, man, tu t'es arrêté avant le début du succès en matière de jeu de mots. Tu t'es arrêté, genre, entre l'effort réel et l'accomplissement, tu vois. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Il y a un resto à Bruxelles qui s'appelle, ou en Belgique, je sais pas si c'est à Bruxelles, qui s'appelle le Confusion. Et c'est en deux mots. Le Confusion. OK. Admettons que c'est de la nourriture, genre de la bouffe fusion. Admettons. Je sais pas, mais admettons. Est-ce que vraiment tu veux que ce soit de la bouffe fusion conne? Et qui veut aller dans un resto qui s'appelle Confusion? Tu sais, oui, je vais te prendre des pâtes au pesto, s'il te plaît. Tu reçois un orignal vivant dans ton assiette. À moins que ce soit le concept. Et c'est mieux d'être le concept!
Mais il faut qu'il se distingue, ce mec-là. Nguyen, c'est pas le nom le plus connu là-bas? Je sais pas, moi.
Je sais pas.
À côté de
lui. Tant qu'elle l'appelait Au bout du rouleau le printemps, pourquoi qu'il appellerait pas son spectacle genre cliché raciste? Va au bout de l'idée, genre blanchisserie et talent mathématique.
C'est ce que l'autre fait, hein, comment il s'appelle? Foudil Kaibou.
Ouais.
Il s'appelle l'arabe qui cache la forêt.
That dude better be fat, man. répète.
Ça fait peur, non? L'arabe qui cache la forêt.
Ok. Et ce qui pose quand même une question... Pourquoi est-ce que l'arabe cache la forêt?
Mais oui, c'est ça que je me dis.
Qu'est-ce qu'il a caché?
Qu'est-ce qu'il a caché, ce type?
C'est ça. Il y a un mec qui s'appelle Sanaka, que j'ai rencontré. Assez sympathique, au demeurant, d'ailleurs. Son spectacle s'appelle Indigné, presque parfait. Indigné, c'est ça. Si tu parles pas de bouffe, ou que tu parles pas de révolution...
ou de Christophe Ondelat.
À la limite.
Je suis super loin du micro. Ouais. C'est parce que je rigole comme une...
T'as pas l'air d'être fier de ton rire. Chaque fois que tu rigoles, tu te... Moi, je me cache la face quand je rigole.
C'est du rigolage de fatigue.
Ok. C'est ça.
Il en reste encore un, si tu veux.
Vas-y.
Viens boire un pro.
Ah putain, je viens de le comprendre. Je l'ai lu pendant une semaine et je captais rien. J'ai dit, viens boire un pro. C'est comme viens boire un pot, on est d'accord? Viens boire un pro.
Ils font de l'impro.
Ouais.
Et leur titre, c'est ça.
Eux, à la limite, sans vouloir jouer l'avocat du diable...
C'est déjà mal parti.
Viens voir l'impro, viens boire un pot. Si c'est un bar-spectacle, dîner-spectacle, à la limite, les deux sens du jeu de mots font du sens. Je dis pas que c'est génial, je dis que c'est au moins cohérent. Viens boire un pot. Le meilleur pour ça, vraiment, le festival du bon plaisir pour les spectacles à jeu de mots, c'est quand même Avignon.
C'est vrai?
Ouf! Il faudrait que je les retrouve. Les gens chez Kings of Comedy avaient collectionné les flyers des pires jeux de mots d'Avignon 2013. Ouais. Et je vais essayer de mettre la main dessus cette semaine comme on essayait de mettre la main d'ailleurs sur le, pour faire une transition sur le spectacle de Jérémy Ferrari. Ah ouais, ouais. Sans succès pour le moment.
Non, mais je me demande s'il est sorti en fait.
Peut-être
qu'il va sûrement sortir ce mois-ci ou je sais pas.
Ou qu'il a été tout vendu.
Parce que ouais.
Les ventes de ce DVD vont beaucoup trop loin.
Ne relance pas là-dessus.
Non, t'inquiète, c'était le seul. Donc merci pour les jeux de mots. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. La police du jeu de mots. Tu sais qu'on va commencer avec la police du jeu de mots, que ce soit dans une émission, un titre de spectacle ou quoi que ce soit, les pires jeux de mots de la semaine. Je pense que c'est une bonne façon de dénoncer cette calamité qu'est le jeu de mots. Parce que ça, à la base, il y a quand même le jeu de mots réussi qui est complètement noyé en ce moment, tu vois.
Genre.
Ben, dans tous les jeux de mots pas réussis, quoi. Le jeu de mots. Ouais.
Parce que là-dedans, on est bien d'accord, tout est raté.
Man, l'arabe qui cache la forêt, je suis désolé, mais. Il faut respecter ça. Hein.
Mais il s'appelle Foudil Kaibou, il risque pas vraiment de vendre sur son nom.
Peut-être que le prochain, ça pourrait être genre... Foudil Kaibou qui s'appelle?
Vas-y.
Le Kaibou dans la forêt?
Couillul Kaibou.
Tu sais quoi, man? On devrait juste rendre service aux gens et trouver leur titre de spectacle.
Je te l'ai dit la semaine passée.
Ouais, ça, on va faire une agence de pub juste pour ça, quoi.
Non, merci, ça peut pas être pire qu'une agence de pub, de toute façon.
Ouais, t'as travaillé dans la pub, toi aussi?
Ouais.
Wow. Le pourcentage de branleurs dans la pub, je crois, est plus élevé que dans la pornographie.
C'est vrai.
Donc, OK, les vraies news cette semaine, mon bon Anthony.
Ciné?
Ouais.
Il y a Ron Burgundy, le personnage de Ron Burgundy, qui a tourné 70 pubs pour Dodge.
Oui, c'est ça. Donc, dans
Dodge Durango.
Anchorman 2, si vous avez toujours pas vu le 1, il faut absolument. C'est donc avec Adam McKay, le gars qui écrivait dans Saturday Night Live. Ils ont créé Funny or Die ensemble.
Ouais.
Et Will Ferrell est connu pour ses pubs qu'il fait. Il y a des pubs, il fait pour. Je me souviens plus dans quel pays. Je crois que c'est un pays de l'Est. Pour de la bière.
C'est vrai, je savais pas ça.
Ah oui, non, mais. Et puis c'est des trucs, des fois, qui n'ont rien à voir. Genre, il regarde la bière, ou non, il y a un nom de pont qui ressemble à couille en anglais, ou je sais pas trop quoi. Et c'est juste lui qui regarde le nom du pont, qui regarde la caméra, qui rigole en disant le nom du pont 3-4 fois, qui boit une gorgée de bière, et le spot pub est fini.
Il joue Will Ferrell, ouais.
Il joue ou un personnage de Will Ferrell, ouais, peu importe. Okay. Mais, et puis c'est. Plein de spots. Je les retrouverai pour que tu puisses les mettre sur le Tumblr.
Yes.
Et ceux de Dodge, donc il prend son personnage du présentateur avec des moustaches les plus glorieuses de l'histoire de la moustache depuis Tom Selleck. Et j'en ai regardé quelques-unes. Il faut aimer le style, sinon vous allez pas comprendre pourquoi c'est marrant.
C'est drôle. J'ai pas tout vu, mais parce que les 70 sont pas encore dispo. Ils vont mettre petit à petit. Il y aura des vines, il y aura des. Et elles sont quand même assez longues. Elles font genre une minute ou quoi.
Oh, il y a un peu de tout. Moi, j'en ai vu juste une où il dit « Voici le nouveau Dodge 360 horsepower. Et voici un cheval. Un seul horsepower. Hein? On se sent mal, hein, le cheval? On se sent mal? » Il fait un staring contest avec le cheval. Le cheval bouge la tête. Il dit « Ah, j'ai gagné! » Et la pub est finie, quoi.
Il y a celle avec les danseurs, tu l'as vu?
Oui, ça commence avec une espèce de musique de violon, puis t'as deux danseurs classiques qui font des jolis mouvements, et t'as une voix off qui fait l'élégance.
La grâce.
Et t'as Burgundy qui arrive en courant « Get the fuck out of here! » Un truc comme ça en disant « D'après moi, ils sont cachés en tel endroit. Il va falloir arroser l'endroit, je sais pas, enfumer l'endroit pour les sortir de là. » Donc c'est vraiment, ils ont dû avoir beaucoup de plaisir à tourner ça. Ça fait aucun sens.
C'est marrant comme idée en plus d'appeler un personnage comme ça pour la promo d'un film. Ils font leur promo à deux.
À fond, je sais pas.
Parce qu'à la fin, il y a et le logo de Dodge et le logo d'Anchorman 2. Donc,
Je me demande qui paye qui à ce moment-là.
Ouais,
d'après moi, Will Ferrell reçoit de l'argent des deux.
Je crois que sûrement c'est Paramount le film, je pense.
Mini parenthèse, mais parlant de Funny or Die, si vous l'avez toujours pas vu. La vidéo du fameux Between Two Ferns, l'émission, l'espèce de football show de Zach Galifianakis, il interview Justin Bieber. Je sais que je le dis à chaque semaine, mais parce qu'à chaque semaine, il y a des nouveaux trucs. C'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu cette année. La première phrase qu'il lui dit, c'est « Justin Bieber, it's nice to have you here since you're in the middle of your public meltdown. »
Ce qui est vraiment plus...
C'est ça qui est génial, c'est tout ce qu'il lui dit, c'est vrai. Il dit, quand t'es en studio, est-ce qu'une fois tu t'es déjà dit, « Hey, et si j'enregistrais pas une chose merdique pour une fois, est-ce que cette pensée-là t'a déjà traversé l'esprit ou non?
Ça... » Mais le site de AFC, ils ont repris une liste des 10 choses les plus méchantes qu'il a dit à toutes les stars.
Ah oui?
Je publierai le lien aussi. Ma préférée, je crois que c'est la numéro 1 d'ailleurs dans leur liste, c'est quand il dit à Bruce Willis, tu savais qu'il y avait des acteurs qui disaient non des fois?
« Do you know that actors sometimes turn down roles? » Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il dit à Bruce Willis, donc qui a eu trois gosses avec Demi Moore. Demi Moore à l'époque sortait avec Ashton Kutcher. Il fait You have three kids. Which one's your favorite, Ashton? Il est incroyable. Et puis finalement, si vous détestez Justin Bieber, il y a un moment où Zach Galifianakis le frappe avec une ceinture. Et je crois que ce moment-là, j'ai usé Internet
mais
comme une bande.
Il joue quand même bien, le Bieber.
Je sais qu'ils sont pas au courant de tout.
Parce que sa relation, ils sont pas au courant de tout.
Ce que Galifianakis avait dit à l'époque, c'était que ce que moi j'avais vu,
ils savent. Ah bah oui, toi t'as vu forcément.
Hein?
Comme t'as dit, parce que moi j'avais vu.
C'est ça, de ce que moi j'avais vu, pardon. Ah. Parce qu'on sait bien, toi t'as tout vu,
c'est toi, ça.
T'en as tout vu Internet, deux fois, quoi. Non, c'est que lui-même est un peu stressé parce que l'invité sait dans quoi il s'embarque, mais il lui donne pas toutes les clés. Et lui, jusqu'à la dernière seconde, il check avec les autres voir s'il peut dire telle ou telle chose. Et donc, il dit des fois, ça donne des moments qui sont un peu réellement awkward.
Tu m'étonnes.
Avec Nathalie Portman, quand il a vaguement agresse.
C'est là quand il met sa main, c'est pas celui-là?
Je pense que c'est celui-là.
C'est Charlize Theron.
Non, c'est Charlize Theron.
Charlize Theron, ouais.
Et il l'a fait aussi avec Michael Cera.
Ouais, mais Michael Cera, il est trop drôle.
Mais c'est vraiment, vraiment génial. Et donc, voilà, on va publier le lien aussi. Et il doit bien exister une version sous-titrée quelque part sur Internet. Et
c'est pas très compliqué.
Ça dure 5-6 minutes, mais franchement, c'est. Et c'est là que tu te dis, rire tout fort, même quand tu trouves des trucs drôles, rire tout fort plusieurs fois en 6 minutes. C'est vraiment très rare. Et c'est de la one line, tu vois.
Tu savais que c'était produit par Scott Aukerman?
Non, le gars qui fait Comedy Bang Bang?
Ouais.
Je ne savais pas.
Et le mec, il est en train de s'étendre aussi un peu partout, même en télé. Ils ont signé un deal, je pense. Je ne sais plus pourquoi, je pourrais en reparler une autre fois. Et c'est un peu le Chris Hardwick, mais de l'humour un peu barré, complètement bizarre et moins accessible, on va dire.
Alternative comedy.
Ils font un truc, je trouve, hilarant dans Comedy Bang Bang, mais l'émission... C'est qu'à chaque fois qu'il dit « Je m'appelle Scott Aukerman », c'est sous-titré un truc qui ressemble vaguement, tu vois. Et ça veut genre rien, absolument rien dire. Mais bon, c'est un des trucs les plus logiques dans l'émission, en fait.
C'est
dingue.
Ça donne une idée pour le reste. Donc voilà, fin de la parenthèse par rapport, donc on disait, les pubs du personnage Ron Burgundy. Le film va sortir, il sort pour Noël, je crois, de ce que j'ai vu, 20 décembre, au bout de Anchorman 2.
Et une autre petite news, tu vois, c'est qui, Peter Dinklage?
Non.
C'est le nain dans Game of Thrones.
Oui.
Et bien, il va jouer dans une comédie où il jouera... Je vais te laisser dire le mot parce que j'arrive jamais à le prononcer. Ça va faire 28 ans.
La comédie... Leprechaun.
Voilà. Il va se faire passer pour un...
Donc un leprechaun, c'est un genre un farfadet.
Ouais, voilà.
Leprechaun, il y en a qui disent en français.
Ouais, bah ouais, mais j'osais pas, donc...
Ouais.
Okay, mais ça peut être marrant, je trouve.
Et dans la comédie de nains et de trucs comme ça, ça me fait penser, c'est une sous-catégorie.
La comédie de nains.
Ouais. Midget comedy, le dwarf comedy. Il y a un gars qui s'appelle Brad Williams. Je sais pas si tu connais.
Non.
C'est un nain qui sévit à Los Angeles.
C'est pas un black?
Non, c'est un blanc. Il se fait toujours passer... tout le monde pense que c'est Wee Man de Jackass. Mais son show s'appelle... il y a un show sur iTunes qui s'appelle Coming Up Short. Et c'est lui qui parle du fait qu'il est nain. Il dit « Les nains sont le bacon de l'humanité. T'en mets un peu partout et ça rend tout meilleur, quoi. » Et il est allé jouer pour les troupes, entre autres, je crois c'est en Afghanistan. Et à l'aéroport, il dit que les gens locaux là-bas sont pas habitués de voir des nains. Et donc, il y en a qui
les jettent dans l'eau là-bas.
Qui avaient peur, quoi. Et quand les soldats américains ont vu que les locaux avaient peur, ils ont dit à Brad, tu sais quoi, mets-toi à courir. Et Brad se met à courir, et t'as les militaires américains derrière qui font « On l'a perdu! Retrieve the demon! Récupérez le démon! » Et il racontait des anecdotes les plus dégueulasses que j'ai entendues de ma vie. Il dit « Moi, si vous voulez, je suis un nain, je vais coucher avec n'importe qui, je m'en fous, tu sois petite, grande, belle, grosse, pas de problème. Le seul truc, il dit, je veux juste que vous m'avertissiez si vous avez un fétichisme des nains. Parce qu'il dit, parfois, je me suis fait secouer de manière où j'ai eu un peu peur. Tu vois. Il dit, en plus, moi, je peux draguer n'importe qui parce que les filles, les nains n'ont pas peur de moi. Ils me connaissent pas, ils me ramènent chez elles. Il dit, au pire, je le shot une fois, il repart 2 mètres plus loin. Tu vois. Et il dit, une nana qui vient me voir à la fin d'un spectacle, elle doit faire 140 kilos. Tu vois. Et puis, elle veut coucher avec moi. Donc, moi, je me dis, fuck it. Et j'y vais. J'arrive chez elle, puis je lui demande « C'est quoi ta position préférée ?» Elle me dit « Au-dessus. » Et « C'est quoi ta deuxième position préférée ?» Donc, c'est elle qui est en dessous. Donc, j'arrive, je m'installe, je grimpe. Mais quand je grimpe...
Ça me dit quelque chose, en fait.
Je te l'ai peut-être déjà raconté.
C'est possible, ouais.
Je sais pas, je l'ai pas raconté dans ce podcast.
Non, pas dans le podcast, mais ça me dit quelque chose.
Et donc, il arrive. Il dit « Je m'installe pour monter par-dessus elle. » Et elle est tellement un gros ventre qu'à un moment donné, je me rends compte « Shit. » Mes pieds touchent plus le lit. Et donc, il dit, je m'accroche à elle, genre, comme à ma vie. Puis c'est à ce moment-là que je réalise qu'elle a un miroir au plafond. Oh. Et je me dis, ah ben, fuck, man. De son angle à elle, c'est comme si une araignée géante était en train de copuler avec elle.
Oh, putain.
Et donc, il y a ce genre de truc-là. Et il raconte une anecdote que le... c'est déjà arrivé qu'il était dans un centre commercial. Puis il voit, t'as un nain, t'as l'habitude de te faire regarder toujours bizarrement. Mm. Puis à un moment donné, t'as un père qui arrive avec son enfant auprès de moi. Puis il dit, ben si, fils, je te l'ai dit, tu vas voir, pouvoir voir. Ah, monsieur, dites que c'est vrai que vous êtes un lutin du Père Noël en observation incognito parmi nous. Il dit, j'étais tellement fâché que t'as des cons comme ça qui disent n'importe quoi. Ma réaction, c'était simple. Ah oui, oui, c'est vrai, rappelle-moi ton nom. Ah, je m'appelle Scott. Mais écoute, Scott, j'ai vérifié sur ma liste et qu'est-ce que tu veux pour Noël, quoi? Ah, j'ai pas dit genre une Xbox, une PlayStation, un truc comme ça. Ben, il dit, comme t'as été un bon garçon, je te promets que tu vas avoir tout ça. Honnêtement, la seule raison si t'as pas tout ça, c'est si papa a pas réussi à ouvrir la porte au Père Noël ou un espèce de truc comme ça. Et donc, t'as le père qui me regarde vraiment genre super méchamment. Il dit, moi, je lui faisais un finger dans ma tête puis je me suis cassé, quoi.
Non, mais je sais pourquoi ça me dit quelque chose, parce qu'il y a dans le dernier spectacle de La Tracy, là, un truc aussi avec un nain.
Ok.
Et,
c'est pas même un cul-de-jatte dans le truc de La Tracy?
C'est un cul-de-jatte, ouais, parce, ouais, un truc comme ça, parce que je me souviens qu'il dit qu'en fait, à la fin, il l'a renvoyé chez lui sur un skateboard. Et, et voilà, en fait, c'est pour ça que ça me disait quelque chose.
Donc voilà, longue parenthèse pour parler de la série où on va passer pour un leprechaun.
Un film.
Un film, pardon. Et c'est une comédie?
Ouais.
De toute façon, même si c'est pas une comédie.
Ce sera drôle. Il y en a dedans.
Et on a plus d'infos là-dessus quand ça
non,
sort?
Non, juste écrit, ça, qui... non, c'est, on ne sait pas.
À surveiller la prochaine fois que vous voyez un Leprechaun, il y a des bonnes chances que ce soit ce film-là. D'après moi, il n'y aura pas comme Blanche-Neige, deux films en compétition avec le même thème.
Ou Joséphine Ange Gardien, un épisode d'Halloween. T'as vu qu'elle gagne 150 000 par épisode?
Moi, je trouve que c'est justifié. Moi, j'ai jamais compris les gens qui étaient choqués par les salaires des gens qu'on donne.
150 000?
Mais combien de fois? Tu vaux ce que tu rapportes? Toi, si tu fais une émission et puis qu'avec ça, TF1 fait 6, 7, 8, 9, 10 millions de téléspectateurs...
Tu vaux ce que tu rapportes, ben non.
Si ce podcast-ci me faisait en sorte...
Tu vaux ce que tu rapportes dans Fort Boyard, quand ils doivent reprendre l'argent à la fin, mais elle, enfin...
Ouais, mais regarde, si t'enlèves Mimi Mathy de Joséphine Ange Gardien, est-ce qu'ils font les mêmes scores d'audience?
Ben, c'est une question d'habitude. S'ils avaient commencé avec quelqu'un d'autre, oui, sûr et certain.
Le nombre d'émissions qui se plantent, il y a plein de raisons. Je veux dire, une fois quand t'en as une qui réussit, c'est un miracle, une émission qui réussit. Tu touches pas. Don't fix it if it's not broken. Le truc marche. De toute façon, qui d'autre pour la remplacer? Honnêtement. Yeah, c'est ça.
Hein?
Passe-partout. Tu vois, c'est ce que je fais. Non, mais c'est tant qu'elle est dans le même truc. Si dans ce podcast-ci, avec tes news, moi je faisais 5000 euros par épisode, puis je te payais 100 boules par épisode, c'est quoi ta réaction?
Si je le sais pas, je m'en fous, je continue de rigoler.
Ouais, elle le elle le sait. Moi, je suis pas choqué parce que ça se régule par soi-même. S'ils disent, ah, en fait, ça vaut la peine de le payer parce qu'on continue de faire des émissions, on continue de faire de l'audience. Tu peux remplacer à peu près le trois quarts des acteurs autour d'elle. Mais c'est comme une équipe de foot. T'as ta star qui va être payée, ouais, 500 fois ce que ton backbencher va faire.
Ouais.
Il n'y en a pas mille des gens qui attirent des foules. Quand tu regardes Juste pour rire à l'époque, quand il y avait Florence Foresti, Franck Dubos de signer, il n'y avait pas besoin de signer grand autre monde en France. Tu disais juste, hey, spectacle de Florence Foresti. Le truc se remplissait. Il n'y en a pas.
Mais c'est peut-être parce que j'aime. C'est peut-être un truc parce que j'aime pas ou qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, en fait.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, en soi, il lui donnerait jamais ce pognon-là s'il ne faisait pas de l'argent avec. Il n'y aurait aucun intérêt à le faire. Moi, c'est pour ça que ça me choque pas. C'est comme pour les émissions. Ah, l'animateur gagne tant. Ouais, mais tu veux qu'on fasse la liste de tous les animateurs sur les chaînes et combien tu gagnes pendant des années parce que t'es hyper remplaçable?
Oui.
T'en as fait des émissions de télé. J'en ai fait des émissions de télé.
Oui.
Moi, j'ai la chance d'être assez bien traité. Même, je dirais, bien, pour la Belgique, super bien traité. Mais putain, les tarifs, c'est pas...
Je confirme.
Et c'est juste que c'est tellement... En fait, ce qui me fait chier avec ça, c'est que c'est genre de news comme quand, en Belgique, tu vas voir « Ah, Marc Dutroux demande sa libération conditionnelle. » C'est comme ça, collectivement, on peut tous avoir l'impression d'être des bonnes personnes parce qu'on s'indigne sur la même chose, tu vois. Fait « Ah, la pédophilie, c'est mal. » Ou genre « L'argent, c'est... Elle gagne beaucoup. Salope. »
Non, mais c'est pas qu'elle gagne beaucoup, c'est juste par rapport au boulot. Enfin, c'est démesuré. C'est même, par exemple, les Make the Friends, pour moi, c'est 1 million par épisode, tu te rends compte?
Ouais, je me souviens de la
Le coût est génial, ok, ils se sont tous mis d'accord. Enfin, 1 million par épisode, tu te rends compte? Enfin, c'est.
Oui, mais quand tu me parlais d'un épisode des Simpsons qui est en syndication, ils le vendent une fois un épisode, ils le vendent 1.1, 1.2.
Ça serait la chaîne, ouais, mais...
Ouais, mais je veux dire, ils perdent pas... Il y a une chose qui est universelle dans la vie, si 100 000 personnes ont envie de payer pour venir te voir,
ouais.
Tu vas être riche tout le temps. Parce ouais. que c'est super rare. Pour un Friends, il y a combien de... Ben, on a déjà fait... Il y a 84% des émissions qui survivent pas une première saison, et là-dessus, t'en as quoi, un sur... Sur les pilotes, t'en as quoi, un sur 15 qui arrive en télé?
Ouais.
Un sur 20?
Et ouais, mais c'est en fait, c'est tellement exagéré que...
Mais en fait, c'est comme n'importe quoi, c'est de l'oligarchie, c'est-à-dire que les deux gros... Coca et Pepsi ont quoi, 90-95% du marché des sodas? C'est toujours ça, c'est joué au loto, pour ça, tu dis, ah oui, à côté de ça, il y a plein d'acteurs qui crèvent de faim, tu sais, c'est triste, mais c'est aussi ça qui fait que les gens sont créatifs, là. Si on te donnait 150 000 en commençant pour faire de la bouse, il y a peu de chances que tu prendrais des risques,
ça c'est sûr,
parce que quand tu vois ceux qui reçoivent 150 000 pour faire de la bouse, c'est rare que tu les vois après dans un truc bon, quoi.
Ben, elle, c'est quand même pas bon. Pour le coup.
J'ai regardé, probablement, genre, si tu mets toutes les pubs bout à bout que j'ai regardé par hasard, ça fait 2 minutes.
Moi aussi, ça va faire un épisode.
Tu vois que c'est pas un show qui fait pour moi, ça. Mais c'est un miracle quand les gens vont voir quelque chose. Rester sur une
chaîne... C'est un ange gardien.
Ouais, c'est ça. Non, mais rester sur une chaîne, c'est une chose. Mettons, si t'es... Ah tiens, j'ai fait 200 000 entrées en tant que la première partie de Gad Elmaleh. J'ai pas énormément de mérite, tu vois. Mais quand t'as ouvert... ton ticketing et que tu avais 200 000 billets à vendre, tu as réussi à les vendre.
C'est ouais, mais là, elle tue toute la création en France. C'est déjà pas le top. Si t'as, tout est monopolisé par elle et, enfin, maintenant c'est fini, mais Julie Lescaut,
ouais.
T'as quoi comme autre chance d'arriver sur TF1 en prime time?
Ouais, mais entre toi et moi, si TF1 se dit que ce sont des émissions comme Julie Lescaut et Joséphine Angegardien qui drivent le plus grand public, même si eux se cassent, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont mettre à la place? Ils vont mettre un fucking clone de Joséphine Angegardien ou de.
Ouais, mais ces machins-là, ils ont. Julie Lescaut, par exemple, je sais plus combien ça a donné, c'est même peut-être plus vieux que moi, j'en sais rien. Ça a changé maintenant, ils se rendent quand même bien compte. Ils achètent des séries à l'appel, t'as des chaînes spéciales séries qui diffusent des séries américaines le jour d'après. Ils se rendent bien compte que les gens, ils viennent pas voir, ou en tout cas les jeunes, ou en tout cas les...
Mais on s'en fout des jeunes en télé. Parce que la moyenne, c'est quoi, c'est la moyenne par jour de télévision regardée, c'est genre 4 heures, un truc comme ça?
Je sais pas, mais ça diminue de toute façon.
Au profit mais d'autres trucs, mais... Toi, combien d'heures tu regardes la télé par jour? Combien d'heures tu t'assois en disant, je check pas, je parle des chaînes, pas des séries, pas des films, pas des... Tu dis, je vais regarder la télévision.
Des secondes.
Ben voilà. Et donc, des gens comme toi, qui ont ces goûts-là, tu me dis, moi, mes goûts, c'est tel truc, et je regarde la télé 0 secondes. T'as fait assez de pubs dans ta vie pour savoir qu'on en a rien à foutre à ce moment-là de ton opinion.
C'est comme mais si... je regarde pas la télé parce qu'il y a des machins pareils.
Ouais, mais
et qu'ils ne devraient pas payer autant ces gens-là échanger
et... Mais ils ont déjà des gens qui regardent la télé. Et ils font déjà du fric avec ces gens-là, et ces gens-là, ils...
Les chômeurs!
Ben, les vieux! Il y a quelqu'un qui disait, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents avaient la radio allumée en permanence, tes parents, tes grands-parents avaient la télé allumée en permanence, puis toi, t'as Internet allumé en permanence. Ben, eux, ils font de la télé. À qui est-ce qu'ils vont parler? Ceux qui sont déjà, par définition, 6-7 heures devant leur télé.
Ouais.
En Belgique, c'est 50% de la population qui a 55 plus, je crois, un truc comme ça. Et donc la crowd qui regarde la télé, c'est qui? Hein? C'est eux?
Ouais, mais c'est con, c'est un nivellement par...
Ben non, ça va se renouveler par soi-même, parce que ces gens-là...
Mais dans combien de temps?
Ben, ça va être long, et puis nous, ça va être probablement des séries qui vont commencer sur Internet, ou qui vont commencer sur une petite chaîne qui va avoir un succès, puis après ça, la télé va les ramener. En fait, la bonne nouvelle, c'est pour nous, c'est la segmentisation des marchés. C'est-à-dire que tant que t'as besoin de faire 15 millions pour appeler ça un succès... C'est pas bon. Mais tant que les audiences baissent des grandes chaînes...
Maintenant, t'es content avec 1 million, 2 millions, ouais.
La journée où TF1 a besoin d'un 1,5 million pour faire un succès, nous, c'est tout bénef pour les gens comme nous parce que tu peux parler plus spécifiquement à un marché. Et c'est ça qui est arrivé aux États-Unis. La créativité, elle vient pas, elle est pas venue d'NBC, CBS et ABC.
Ouais, non, c'est clair, ça.
Elle est venue de Showtime, HBO et AMC et tous ces trucs-là. Et c'est pour ça, moi, quand j'ai vu la TNT arriver, même si tout le monde se fout de la gueule de la TNT en disant « Mais t'as vu les programmes de merde qu'ils diffusent? Ah, t'as du caca, man. T'as des séries où... Genre, probablement, quand ils les ont achetés, les gens qui vendaient ont fait « Seriously? Tu veux acheter ça? Tu sais quoi, je te donne un épisode, regarde, puis si t'as pas
changé d'idée... » Oui, c'est clair qu'en France, ça a divisé les audiences en... je sais pas, ils sont combien maintenant?
Je sais pas, mais plus que t'arrives à trouver un modèle économique qui demande un petit nombre de personnes pour vivre, au meilleur, la nouvelle pour la créativité, c'est ça qui fait qu'elle va pouvoir être boostée. Donc, On peut rien contre Joséphine Angegardien et les gens qui le regardent. Par contre, si tu crées d'autres contenus, dilue le marché un maximum. Mais quand il sera suffisamment dilué, t'as des gens qui vont faire faillite, t'as des gens qui vont perdre. Mais ceux qui vont devoir renaître, c'est ceux qui auront trouvé le modèle économique pour vivre avec moins de moyens. Et là, on va pouvoir... Parce que finalement, toi qui...
Mais alors, t'auras été habitué à vivre sans moyens et c'est fini l'époque où tu pourras jamais te dire « je vais gagner 150 000 ».
Peut-être bien, mais c'est pas obligé.
Comme tu vois, c'est pas rien qu'en télé, c'est partout. Les gens, mais ouais, partout. Les gens sont tellement habitués à accepter de moins en moins en moins en moins de thunes que quand toi tu demandes un peu plus, on dit ouais, mais attends, l'autre ici l'a demandé moins que toi. On va arriver à ça et du coup, les gens n'auront plus envie de créer et on va se retrouver toujours avec ces machins-là qui, 15 ans plus tard, sont toujours. Au top des audiences.
Oui,
l'effet inverse, il est là.
Oui, non, et on revient aux mêmes choses, c'est-à-dire que si toi tu demandes plus, puis qu'on dit, ouais, mais ton voisin demandait moins, et tu fais, ouais, mais moi il y a 250 000 personnes qui me regardent, puis lui il y a 125. Tu sais que tu peux faire. Les trucs se régulent où tu vas. Si tu.
Ouais, idéalement,
faire
idéalement.
Des spectacles, ouais. Tu vois. Moi si je fais une émission, puis il y a 100 000 personnes qui me regardent, mais les 100 000 qui me regardent, ils adorent ce que je fais, puis je pars en tournée, je vais vendre 100 000 tickets. Si je vends 100 000 tickets, je suis tranquille, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'avoue, je m'en cogne un peu de taper sur l'audience large. Je veux juste que les gens qui t'aiment, t'aiment assez pour acheter tes produits après.
Ah non, je comprends, Mais bon.
Moi, c'est honnêtement, si j'ai le choix entre avoir 1 million de personnes qui me regardent en télé et puis après ça faire une tournée où il y a 3 000 personnes qui viennent me voir ou avoir 10 000 qui me regardent en télé et puis 10 000 qui viennent me voir en spectacle, j'hésite pas une seule seconde, je prends les 10 000.
Ouais.
Parce que Il est là le vrai plaisir, tu vois. Et quand tu vois les musiciens, avant t'avais besoin aussi de vendre 1 million de singles, sinon c'était un échec. Mais il y a plein de plus petits groupes qui arrivent à vivre parce que t'as des chaînes télé qui disent putain, il y a 50 000 personnes. Tu sais, si t'as 50 000 personnes sur YouTube qui te regardent, c'est pas grand chose. S'il y a 50 000 personnes qui viennent te voir dans un stade, t'es une superstar. À quel point t'arrives à faire bouger les gens? Quelqu'un qui fait bouger les gens.
Ouais, mais je vois bien ce que tu veux dire, mais après, je comprends tout à fait les réactions, je les trouve justifiées. Je trouve ça démesuré.
Mais à qui va aller l'argent sinon? Parce que l'argent, il existe. S'ils font de l'audience, tu le donneras à qui?
Mais TF1, ils ont des chaînes à TNT. Ils testent. Pourquoi ils n'utilisent pas des TMC, des machins qui leur appartiennent comme laboratoire?
Mais je veux dire, c'est pas. L'argent que Joséphine Lange-Gardien touche, il vient pas de TF1. Il vient de la prod.
Non, mais je me dis, si tu dis cet argent-là, à qui devrait aller?
Pour toi, il devrait acheter la série moins chère.
Ouais.
Et après. Mais si.
Enfin, je sais pas.
De toute façon, je pense pas qu'on va refaire le monde.
Non, c'est sûr. Et puis en fait, on s'en fout complètement.
Exactement, parce qu'on parle de comédie ici.
Un mec qui mérite sa thune, tiens. Kimmel, j'allais dire. Letterman, qui a signé jusqu'en 2015.
Ouais, donc il va battre le record de Carson, c'est ça?
Je ne sais pas exactement. Je sais bien que ça fait 31 ans qu'il fait de télé, 20 ans chez CBS.
Ouais, Carson, c'était 30, je crois. Je pense que c'est un peu le but parce qu'il a signé.
Mais surtout, il veut un peu faire chier les jeunes aussi. Je pense qu'il se dit pourquoi. Son contrat devait s'arrêter en 2014. Prolongeons, il dit faisons chier. En 2014, tout va changer.
Oui.
Il faut qu'il soit là et qu'il fasse son petit commentaire cynique en début de monologue.
Moi, j'aime encore bien. Je sais qu'il y a beaucoup qui trouvent que.
Mais il a plus la même énergie, c'est ce qui est logique. Mais non, il arrive à être drôle. Il arrive encore à avoir des très bonnes interviews, des bons.
En interview, quand tu mets une interview difficile, il est très très bon. En fait, un invité qui a pas trop envie d'être là et qui.
Mais c'est un connard, hein, des fois.
C'est un connard.
Sens que ça fait. Ouais, mais tu sens que des fois, il en a rien à foutre. Tu vois, bon, Lindsay Lohan, tout le monde tape dessus. La dernière qu'elle a fait il y a quelques mois, c'était misérable, quoi. Il était vraiment, vraiment méchant, en fait. Il rigolait un peu avec son public qu'il connaît, il regardait un peu la caméra. Il sait bien qu'il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Elle, entre deux déchirages de gueule. Elle sait pas ce qu'elle fait.
Avec moi, un de mes préférés, ce qu'il avait fait, c'était avec Paris Hilton. Quand elle était sortie de prison, il l'avait eu. Puis il parlait de prison. Ça, puis elle disait « I don't want to talk. » Elle n'a pas dit comme ça. En plus, tant mieux pour elle. « I don't want to talk about prison. » Puis il fait « Ah ouais? » C'est con parce que tout ce que j'ai envie, c'est de parler de prison. En
l'inverse. Ouais, mais tu vois qu'il...
espèce de petite pause. Après ça, il y a quelqu'un dans la foule qui crie « I love you, Paris !» Ça fait « I love you too !» Et il a enchaîné, mais super quick, en disant « Someone you met in prison !» Et c'est là qu'il est forcé dans sa répartie, comme ça. Et c'est là que tu le... En fait, il est jamais aussi bon quand il est un connard, en gros.
Ouais, mais tu sois un connard avec des gens qui savent se défendre. Ouais. Ce qu'il trois quarts du temps le fait. Vous tapez sur Denis Celohan, c'est vraiment taper sur. C'est même plus drôle.
C'est un peu la facilité.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Sur le coup là, l'interview là. Mais bon, sinon, soit ça reste bien, c'est cool, le mec, il sait ce qu'il fait. Tranquille.
Et un jour, il va falloir qu'on en parle. Les costards de David Letterman. qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il roule dans du tissu, puis à un moment donné, il dit couper quand c'est déjà trop grand.
Je crois qu'il s'en fout de tout. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à ça. T'avais déjà vu le film qui s'appelle The Late Shift ou The Late Night Shift?
En fait, c'est The Late Shift. C'est le truc qui est repris du bouquin du même nom, c'est
ça? Du premier livre, ouais. Il y avait la suite s'appelle The War on Late Night, ouais. Et le premier s'appelle The Late Shift.
Ça, c'est War on Late Night when Leno went early and television went crazy, un truc comme ça.
S'il y a deux livres à lire, c'est ces deux-là.
Ah, sur le Late Night, une fois que tu as lu ça, c'est 700 pages.
Tu sais tout.
Et, ouais, c'est ça,
et le dernier, il couvre jusqu'au bordel de Conan, donc t'es ou moins un jour. Et ce film-là, je suis tombé dessus par hasard il y a quelques temps, c'est hallucinant. T'as un mec qui essaye de jouer Leno en zozotant comme ça, t'as le mec qui joue Letterman.
Ouais, et c'est pas.
C'est pas grandiose, mais c'est un téléfilm du dimanche 14h, tu vois, un jour de Toussaint.
Si t'as pas envie de te taper le livre, disons.
Voilà. C'était marrant de voir surtout des gens imiter des gens que tu vois tous les jours à la télé, tu vois.
À fond, ça doit pas être évident comme
non.
Joe.
Non, c'est clair.
T'as qu'à être dans le late night, on peut-être
dire mais justement, j'allais dire Kimmel.
Ouais, Jimmy Kimmel raconte ce qui s'est passé.
Y a Kanye West qui a fait une interview sur une longue interview à la BBC One, je pense, ou à la radio en tout cas. Kimmel s'en est moqué.
Kimmel, il fait ça, il l'a fait quelques fois. En gros, quand il trouve qu'un truc est un peu ridicule, il prend des enfants et qui refont exactement la même interview, la même intervention, et exactement les mêmes textes à la virgule près. Et Kimmel, il dit que c'est pas pour dire que les gens sont des bébés, c'est juste qu'il dit le truc qui me fait le plus rire, en fait, c'est de.
Les voir à dire des insultes.
C'est ça, exactement, de voir dire des
bébés. Moi, je trouve son explication weak à mort, franchement. Mais sur le coup, j'ai trouvé ça pitoyable. Donc, en gros, je continue l'histoire.
Ça, on va y arriver.
Il publie, enfin, il diffuse cette petite vidéo. Kanye West, sur le coup, voit le machin, un but de sa personne comme d'habitude. Il commence à tweeter, des tweets vachement plus drôles que ce que la team de Kimmel a sorti, parce que franchement, involontairement, Kanye West est méga drôle.
Sur Twitter, c'est un des gars les plus drôles de la Terre.
À un moment donné, il met... je ne sais pas moi, et ça te dit si je faisais une parodie comme quoi tu baisses Ben Affleck, ce qui en vrai était vraiment une parodie, tu vois.
Oh, ouais.
Et il met hashtag no disrespect to Ben Affleck, all disrespect to Jimmy Kimmel.
Oh, ouais, c'est...
Le tweet est super drôle.
À fond. Et donc voilà, il s'était parlé au téléphone avant parce qu'ils se connaissent un peu et Kanye était super
Kanye
fâché.
Kanye a gueulé comme un dingue.
Et, c'est ça. Et après, il y a une espèce de tweet war. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il parle qu'il y a des trucs, les tweets de Kanye West. Le chanteur Josh Groban.
Josh Groban a déjà chanté.
Les meilleurs tweets de Kanye West. Et c'était hyper, hyper drôle.
Mais ce qui est logique, mais... Moi, ce que j'ai pas trouvé, le machin des gosses, ouais, sympathique. De toute façon, la vidéo dans l'émission ne durait jamais qu'une minute trente, donc voilà, ouais, ça valait pas, ce que ça valait.
C'était pas génial, mais c'était intéressant.
Mais moi, c'est juste le moment où il explique, le lendemain où il y a eu cette dispute sur Twitter, ses explications, elles étaient nulles.
Là, avant Kanye West vienne?
Ouais, c'était misérable. Le mec assume ce que tu fais. Enfin, je suis méga fan de Kanye West, faut peut-être le dire. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est un connard infini. Et...
Je pense même pas que ce soit un connard.
Si, c'est un con. C'est un con, il est con.
Je pense juste que c'est En fait, les créatifs comme lui ou David Lynch ou un truc comme ça, tu te dis, une chance que t'as du talent parce que t'avais deux options dans ta vie. Superstar ou SDF. Et d'ailleurs, ça pourrait...
Il gueule dans tous les sens.
Honnêtement, pareil. Enlève le talent de Kanye West... Il reprend les mêmes discours, puis avec un pote Renaud, donc Renaud Copen, c'est un gars qui fait qui travaille toujours en vidéo. Mm-hmm. Super paye pour faire ça. On s'était dit que ça serait limite un jeu marrant. Tu lis une phrase et tu dois deviner si elle est d'un SDF ou Kanye West. Ouais. Mais au total, quand il dit « je suis un génie créatif », essaie de prouver que c'est faux. T'as vu le nombre
Mais le souci aussi avec lui, c'est qu'aux États-Unis, ce qu'il dit, il a le trois quarts du temps raison. Foutez-lui la paix, enfin tu vois, ils sont arrivés à un stade où tu ne peux pas, tu peux rien faire contre les paparazzis, c'est normal, tu dois étaler ta vie, tu dois.
Et il y a une loi qui vient d'être passée, qui va être effective, je crois, en
gosses.
Janvier.
Tu peux plus photographier les gosses.
C'est ça, c'est vu comme étant, si tu photographies quelqu'un avec sa famille, ses gosses, de manière harcelante, c'est une condamnation pour un peu protéger les.
Ce qui est logique, parce que ici en Europe, on n'est pas habitué à ça, et là-bas, c'est. Enfin, c'est logique, quoi. À un moment donné, je peux comprendre que t'en as un peu plein le cul que...
Parce que Kanye West, c'est pas nécessairement servi des paparazzis au début. Hein.
Ben
j'ai
non.
pas souvenir,
ben,
en plus.
Pas non plus.
Il y en a, genre Kim Kardashian, oui, mais lui,
ça, c'est sûr.
Pas nécessairement.
Mais et pour revenir à Kimmel, il le fait venir sur le plateau. Il lui avoue à Domino que le sketch était pas drôle.
Oui.
Kanye se dit, ouais, J'ai peut-être réagi comme un gamin, ok. Et puis, il lui laisse une porte ouverte de un quart d'heure où, en fait, Kanye détruit Kimmel parce qu'il s'est fait prendre à son propre jeu, en fait. Il vient d'inviter le type dont il s'est moqué. Ouais. Et le type fait ce qu'il a fait, ce qu'il fait d'habitude, assis sur ton fauteuil, quoi. Donc, le reste de la vidéo, elle est même pas vraiment drôle. Kimmel, il parle à peine et il y a juste Kanye West qui parle et qui raconte et je suis un génie et quand j'étais pauvre, je m'achetais quand même des chaussures Gucci et pourquoi ma copine, elle a pas son étoile sur
le Walk of Fame.
Et tu dis putain, mais tu fais un sketch misérable pour te foutre de lui et puis tu l'invites et en fait, il fait exactement la même chose et t'es là à côté, tu dis rien. Ta répartie, elle est où, quoi?
Moi, ce que j'ai trouvé bizarre dans le truc... On mettra sur le Tumblr, sur bien l'interview aussi,
ouais, bien
parce que c'est vachement intéressant. Déjà... Pour donner une idée à quel point les négociations hors antenne ont dû être étranges. Moi, j'écoute un podcast que je vous conseille, qui est Kevin and Bean. Le Kevin and Bean Show, c'est les Morning Men sur K-Rock à Los Angeles. Mm-hmm. Et à l'époque, Jimmy Kimmel faisait les sports chez eux. Donc, ils se connaissent bien, ils ont une bonne relation. Et ils l'ont eu au téléphone, Kimmel. Après, pour dire, entre le moment où il y a eu la fête et le moment où Kanye est intervenu dans l'émission, pour discuter un peu avec lui en disant, est-ce que c'est un prank? Non, c'est pas un prank, voici ce qui s'est passé.
Parce qu'il a aussi, il a perdu, parce qu'il a tellement fait de blagues avec le faux twerk, le faux chic, le faux tchac, au final,
les gens pensaient que c'était...
Il est plus crédible, en fait.
Ouais. Et il raconte ça, il dit, j'ai essayé de faire venir Kanye, Kanye a pas voulu venir. Donc, d'après moi, déjà, pour essayer de le faire venir dans l'émission, ça a dû être une douleur.
Ah, mais ils ont viré Arctic Monkeys. Arctic Monkeys devait jouer.
Et ça, c'est un truc qui est dingue aussi. Arctic Monkeys étaient là et ont été bumpés. Donc,
ah oui, ils ont été carrément éjectés.
Ça veut dire que les conditions probablement auxquelles Kanye a accepté de venir ont dû être vraiment...
Mais c'est vraiment... Il a accepté de se couper la bite devant tout le monde en direct parce qu'il lui a offert 25... L'interview, elle fait quoi? Elle fait bien une demi-heure. 25
oui, parce
minutes.
Qu'en fait, il y a son monologue qui fait genre plus ou moins 9.
Et il en parle déjà.
Après ça, il y a un 4-5 de comedy bit. Il y a toujours un comedy bit de 4-5. Ouais. Et là, c'était... je me souviens même plus ce que c'était.
Je sais plus.
Et après, il revient et le show avec les pubs fait genre 42. Donc ouais, ça doit faire du 28 minutes.
Ouais.
Au bas mot, du 28 minutes. Mais... Moi, ce que j'ai trouvé fort, c'est... Puis je l'ai vu, on l'a vu Kimmel dans... C'est celui qui a les plus huge balls, je trouve, avec Letterman quand même. Quand il est allé chez Leno, quand il s'était moqué de Leno en imitant Leno, Leno l'avait invité dans son émission. Et devant Leno, et devant le public de Leno...
C'est pour ça que je m'attendais à ce qu'il continue de faire ça.
Il y avait des trucs huge. Leno, c'était 10 questions à 10 heures. Ouais. Et des questions, c'était « C'est quoi le plus gros prank que t'as fait? » Et il avait dit à Leno, « Ah, j'ai fait croire à un gars qui allait voir mon émission, et 5 ans plus tard, je l'ai renvoyé au chômage, un truc comme ça. » Devant le public de Leno, le public de Leno rigolait. Et donc, moi, j'ai hâte de voir ce que ça donnait avec Kanye. Et tu vois, Kimmel est hyper inconfortable, parce que Kanye a vraiment la technique... génial pour rendre quelqu'un inconfortable, il le regarde sans parler.
Il a rien dit, il y a des fois, il y avait tout était malsain, il le regarde comme ça, déjà quand il serre la main, tu sens que c'est pas non plus...
Chaleureux.
Et sa façon qu'il a d'arriver et de s'asseoir au ralenti sur le fauteuil, genre bam, et de regarder les caméras.
Et c'est ça, l'autre truc, c'est qu'il a jamais regardé Kimmel à partir de certains moments, il parlait au public.
Et puis des fois, il regardait la caméra et il dit, j'en ai rien à branler des caméras. Donc en fait, il a déconstruit tout le late night en fait. Et je trouve ça dingue d'être humoriste et d'avoir aucune répartie.
C'est là où je suis, par contre, parce que moi, je suis super fan de Kimmel à la base. Et ce que moi, j'ai trouvé fort, c'est que d'office, il a fait le choix que ça allait être awkward au début, mais Jimmy Kimmel vit pour les TV moments. Il veut qu'il se passe quelque chose en télé, quitte à se mettre en danger, parce qu'il n'a pas bien paru pour le premier 10 minutes. Le premier segment de l'interview fait 11, je crois. Ouais. Mais quand ils reviennent de pub... Avant que Kanye parte sur un rant, qui est, je trouve, pas stupide, moi, le rant.
Non, pas du tout, c'est juste que...
Sa manière, en sorte qu'il a l'air ridicule, mais quand tu regardes dans le fond, c'est dur de prendre un élément à séparer puis de dire,
c'est ça le truc.
Et le 3 minutes où ils reviennent, là, il y a une espèce d'échange où il y a quelques gags.
Mais c'est quand même fort noyé.
Mais tu l'oublies après. Mais moi, quand il est revenu de pub, j'ai dit, putain... Kimmel a choisi de se mettre en... Parce que c'était facile de faire... Je continuerai de faire des blagues dans mon monologue et jamais avoir les couilles de l'amener dans mon émission. Kanye, c'est une star 50 fois comme Kimmel est une star. Donc, tu sais que tu vas te faire dominer par le star power, par le charisme, par tout ce que tu voudras. Tu l'amènes quand même, t'acceptes de vivre le moment awkward. Et quand il est revenu de pub, il y avait des trucs en disant, dis, il y a un truc que je me demandais, où est-ce que t'étais quand t'écrivais les tweets? J'aime imaginer que t'étais sur tes chiottes.
Oui, mais c'est même pas des vrais... Enfin, pas besoin d'attaquer, mais c'est pas des petits... C'est pas des pics, c'est des...
En fait, il essayait de bander avec Kanye.
Mais
clairement.
Oui, mais et
lui mais Kanye, mais dans ces trois minutes-là, Kanye bande avec lui parce qu'il rigole, il fait c'est rien. T'aurais dû voir les autres tweets que j'avais préparés.
Ouais,
puis on dit que
ouais, ben.
Moi, ce trois, je suis d'accord avec toi dans l'ensemble que Kimmel paraît pas bien, mais je trouve que dans ces trois minutes-là, moi j'ai trouvé ça incroyable qu'en 10 minutes il retourne ouais. la situation. Mais surtout,
je l'ai pas vu comme ça.
Est-ce que tu imagines un seul animateur français qui accepterait? Parce qu'il savait que ça allait. Il est pas con non plus, Kimmel.
Mais non, mais là, c'est ça que je dis. Mais alors pourquoi t'essaies de te mettre à dos des gens si après t'as pas la carrure pour les affronter face à face? Fais-toi alors, je préfère 100 fois l'attitude qui est peut-être faux cul, mais de Fallon, de faire copain-copain avec tout le monde. Et ces moments, Fallon, il les sort et à l'appel et depuis un certain bout de temps sans faute.
Fallon, il est en feu depuis.
Il est. Et ok, c'est du copain-copain. C'est oh, j'adore tout le monde. Ce que vous faites, ok.
Mais
c'est pas chiant.
Tellement sincère par contre.
Oui, parce qu'il adore ce qu'il fait, mais tu sens que ça peut énerver certains. Tu vois, moi des fois, je regarde, je dis c'est bon, arrête 30 secondes. Oh, oui.
Mais il a un gars qui a l'air d'aimer plus son
job. Tu vois,
tu dis
Kimmel, il veut faire des moments. Fallon les fait tout autant. Il y a pas un jour où t'as pas une vidéo de Fallon. Ici, il a tourné le machin, tu vois le clip suédois là, What the fuck c'est.
C'est norvégien, Elvis.
Ouais, ben ils étaient là, ils ont fait ça avec les Roots. Oui. Avant hier, il a fait une chanson de Miley Cyrus a cappella. Avant hier, il a fait
McCartney
qui changeait d'accent avec Fallon.
Et qui a aussi fait le truc où il montre des photos de McCartney qui dit qu'il a inventé le selfie. J'ai inventé le photobomb,
Et avant ça, il y a sûrement d'autres trucs. Et puis
Joking Bad pour prendre un truc qui a 80 millions de views, je crois.
Tu vois, tu dis.
Ouais, mais les deux ont des styles complètement différents. Moi, je sais pas, je salue parce que c'est surtout quand c'est facile d'inviter tout le monde quand t'as un style gentil. Et puis moi, je sais que j'ai un style comme ça de toute façon, donc je peux pas critiquer. Mais inviter les gens quand parce qu'il s'est pas défilé. Moi, j'ai jamais
quand
vu
même,
se défiler.
Moi,
Ne pas l'inviter,
ouais,
t'es facile.
Tiens, je t'offre un petit pantalon en cuir pour ta fille. Je trouve ça ridicule. Ouais, ok. Kanye avait tweeté ça, mais c'est, enfin, on avait parlé dans sa interview, mais le cadeau, ok, ça peut faire rire, mais en fait, finalement, tu lui offres un vrai cadeau d'un truc que Kanye a sûrement bien aimé. Tu vois, t'avais suivi cette histoire.
Oui.
Dans l'interview, il disait qu'il était le premier à avoir inventé le jogging en cuir et qu'en fait, il se l'est fait voler par je sais plus quelle marque, mais ce qui est vrai, tu vois.
Oui.
Donc, le fait de lui offrir ça, je vois pas où elle est la vanne, quoi.
Mais je sais pas, on va pas être probablement d'accord sur ce truc-là, mais moi, j'ai.
Non, c'est clair.
J'aime bien le fait de prendre le risque d'amener quelqu'un parce que c'est pas Kanye qui a insisté pour venir dans l'émission de Jimmy Kimmel. Et le faire à la Letterman aurait été aussi dans un sens un peu facile parce que si tu décides que tu te coupes, le seul truc que tu peux, je pense, blâmer Kimmel, c'est que il est un peu Hollywood. Tu vois, il était Morning Man, il faisait de la radio sur K-Rock, et maintenant il prend ses vacances avec Jennifer Aniston. Peut-être qu'il kiffe le truc et qu'il a envie de rester copain-copain avec les stars. Je peux comprendre que ça, on peut le blâmer pour ce truc-là si on n'aime pas le trip. Mais au total, est-ce que c'était intéressant à regarder ou pas?
Franchement?
Ouais.
Non.
Toi, t'as pas trouvé ça intéressant?
Tu lis l'article sur BuzzFeed, il y a 3 gifs, voilà, on te met les meilleures phrases. Pas besoin de me taper 28 minutes d'interview.
Ok, ben moi j'ai kiffé.
Je les ai regardés dans le métro, je me suis dit, bon, ben je suis dans le métro, j'ai rien d'autre à foutre, quoi.
Mais.
J'adore Kanye West, il répète tout le temps la même chose, donc c'est pas vraiment très intéressant. Ouais. Et Kimmel, bon, quand il fait un chouette truc, c'est ok, mais là.
C'est qui ton préféré en late night, juste pour.
Pour l'instant?
Ouais.
Colbert.
Ouais, c'est ça.
Ah, mais en vrai late night,
c'est
disons,
ça. Maintenant,
c'est
Fallon. Colbert et Stewart. What Ferguson, pour l'instant, je trouve qu'il est en feu aussi. C'est un des rares qui a un sidekick. Je suis super, avec le patronneau dont je parlais tout à l'heure, il est aussi super fan de Late Night. Et on disait, putain, le robot gay de cassé d'ailleurs de Ferguson, Jeff, c'est un improvisateur qui fait la voix et il rajoute des gags de temps. Et tu vois que Ferguson joue avec lui, mais vraiment, genre aujourd'hui, il dit, ah, il n'y a plus tellement Los Angeles que. Et là, il pointe Jeff qui doit trouver que. Puis il en a sorti une, il dit, there was so much rain in LA today that. Et le robot qui répond, that Nicole Kidman had to activate her forehead wipers. Elle a dû, ça, donc Nicole Kidman a dû activer ses essuie-glaces qu'elle a dans le front.
Chez Fallon, moi, ce que j'aime bien, c'est archi découpé. Et tu sais, je le regarde plus sur YouTube maintenant qu'autre chose. T'as tes séquences et le sidekick, c'est quand même le producteur du SNL. Chez Fallon.
Ah, c'est producteur de SNL? Ah,
Steve Higgins, ouais, c'est l'annonceur et le sidekick de Fallon, c'est un producteur de SNL.
Tu sais pourquoi on le voit pas tous les jours?
Non, mais je pense qu'il est fort occupé sur le SNL et des fois on le rappelle.
Et de mémoire, il était pas là au tout début en plus, non? Il est arrivé en avec. Mais Fallon a eu des débuts difficiles au début.
Bien sûr. Bien sûr.
Ben, comme Conan aussi.
Ouais, ouais. Mais surtout, c'était sa légitimité, tu te demandais qu'est-ce qu'il foutait là, quoi.
Ouais.
Mais bon, ils sont vachement bien sortis, quoi.
Ah ouais, je suis sûr que c'est un excellent choix pour le 23-30 en plus. Parce qu'il...
Tu vois, je préfère 100 fois voir Fallon jouer avec Tom Cruise à s'écraser des œufs cuits ou pas cuits sur la tête qu'une énième interview. Où... Il fait des jeux, moi je trouve ça. C'est fun, quoi.
J'avoue qu'il y a au moins ce côté-là où ils ont compris que it's all about the guy behind the desk. Ils sont allés avec la personnalité gars, quoi, au lieu d'essayer de le faire rentrer.
Ils savent, ils connaissent leurs forces et puis t'as les routes, tu vois, ça aide à mort.
Quel charisme, n'empêche. Hein.
Et putain, dit.
Hier, c'est marrant aussi, ils ont fait une espèce de pub, mais pas très subtile. T'as celle qui a gagné la dernière édition de The Voice, Cassidy Pope, qui a une super voix, ce que tu voudras, mais peu importe. Mais elle chantait avec les Roots, mais elle était juste là pour qu'ils puissent montrer l'album. Donc tu dis, ah, donc NBC a des parts dans l'album. Mais c'était vraiment pas subtil. Ça donnait bien, mais tu dis...
Ouais, ouais, mais bon, pour le reste, ils sont quand même...
Ouais. Mais j'avoue qu'avoir The Roots en band résident, c'est
et
pas...
Ils arrivent, enfin, ils le suivent.
Et en late night, c'est ça qui est malade. Il est même pas en late night. Il est à fucking minuit 30. Et donc, pendant que t'as Craig Ferguson, qui a un producteur qui appuie sur des boutons, l'autre ouais, a ça, The quoi. Roots, quoi.
Et au tout début, il disait... quand on lui a dit « Fais-toi ton équipe », tout des débuts quand il concevait l'émission, on lui a dit « Va voir les Roots ». Et Fallon, il fait « T'es sûr que je peux avoir les Roots ?» Et le mec, il fait « Mais non, t'auras jamais les Roots. Va voir, ils connaissent plein de gens. »
Ok, ouais.
Et cet imbécile leur a dit « Ça vous dit de venir ?» Et eux, ils ont dit « Ouais, quoi. »
Mais pour un groupe qui a vécu déjà dans les années, s'il habite New York, c'est quand même un gig qui a moins envie de voyager. C'est quand même un gig aussi qui est pas mal. Ils viennent, et tu vois qu'ils ont l'air de vraiment aimer...
Ils tournent, hein, ils tournent le week-end. Ils tournent moins, mais ils font une date par week-end, je crois.
C'est quand même aussi un bon plan.
À fond,
quoi.
À fond. Surtout qu'ils sont vachement challengés. Ils font des...
les History of Rap, ce truc-là.
Ouais, ça s'appelle comment? Freestyling with the Roots, je crois. Ouais. Où il va dans le public, il dit, tu t'appelles comment? T'as vu la fin de Breaking Bad? Et c'est quoi ton sport préféré? Okay. Puis il dit, oh, tiens, Tariq, hop, elle s'appelle comme ça, bam, bam, bam. Et il dit, fais-moi genre une chanson des années 40. Et puis ils sont là, bam, bam.
C'est des putains de musiciens.
C'est incroyable, tu vois.
C'est vachement impressionnant.
C'est une force aussi par rapport à notre late night.
Nickel. Dis, on est déjà complètement à la bourre, donc je vais te laisser enchaîner les news.
Ouais, mais j'ai plus grand-chose. Je vais juste faire... Je vais zapper la télé. Okay. On en reparlera de toute façon. C'est quoi,
c'est des pilotes et des trucs comme ça?
Ouais, c'est pas...
On fera une autre spéciale pilote la semaine prochaine, à la limite.
Ouais. Je peux juste télé quand même un seul truc.
Ouais, vas-y.
C'est que Vendredi, tout est permis a été acheté par la Fox.
OK.
En plus d'autres pays, mais bon, la Fox quand même. Et c'est Steve Carell qui produit.
Ah ouais?
Et ça s'appellera Slideshow. Et ils ne savent pas si c'est lui qui va présenter, mais en tout cas, il produit et...
C'est un bon concept encore, je trouve.
Ouais, ouais. Et Scarrel a dit... c'est quoi qu'il a dit? Il dit, tu peux être le mec le plus dépressif du monde, t'es obligé de rigoler devant ce truc, quoi.
Oui, c'est ça, c'est la simplicité du truc.
L'émission, moi, je l'aime bien, j'aime juste pas les invités.
Ok, ouais.
C'est dommage, mais là, aux États-Unis, ça risque de vachement bien donner.
C'est une connerie, mais leur truc de tourner sur un plan incliné et de bouger la caméra, puis après tu les vois se déplacer comme des cons.
C'est vraiment, l'émission est vraiment bien. C'est juste dommage de voir Danny Boone tomber, je m'en fiche, et Claude Attaque Beau, je m'en fiche encore plus, tu vois. Là, ça risque d'être bien. Et ça va se rapprocher, à mon avis, de NBC fait un jeu qui s'appelle Hollywood Game Night,
okay.
Où c'est Jane Lynch de Glee,
ouais,
qui présente. Et alors, le décor, c'est un salon, genre on est chez elle, deux équipes. Ça ressemble un peu au Burger Quiz, donc trois stars. Un invité, et ils jouent pour l'invité de l'équipe, quoi.
Oui, je vois, ouais.
Et surtout, on les force à boire.
OK.
Donc, ils sont souvent un peu éméchés. Et
c'est
des
sur quelle chaîne, ça,
parce que
ça
NBC. Doit... C'est passé pendant l'été, en fait, ça a été...
NBC, ouais. Et les gens boivent.
Ouais. Et ça a été un gros carton qu'ils ont recommandé d'autres épisodes. Ouais, d'ailleurs, quand t'es éliminé, tu dois partir et dire va au bar.
NBC et les
ouais,
gens
ouais,
boivent.
Ouais. Ils sont... Il faut voir, il y a une émission, je crois que c'est une des premières avec Matthew Perry. Matthew Perry est complètement déchiré, il répond à aucune question.
Merde,
c'est assez marrant.
C'est pas, ils sont vraiment désespérés, NBC, en fait. Parce
non, pas du tout, mais l'ambiance est bon enfant. Hein. C'est pas non plus un bar à 3h du matin. C'est bon enfant, ils boivent des verres, des vodka ou
aux États-Unis, boire.
Ouais, non, c'est rare, mais c'est vrai que ça se rapproche plus d'une émission de chez nous, mais le concept est vraiment drôle et les jeux aussi sont drôles. Ils doivent par exemple classer ils ont une minute pour classer 8 photos de Madonna, mais de l'emploi, tu vois,
ah, oui.
La plus vieille, la plus nouvelle, c'est impossible, ou Brad Pitt, ils ont tous la même tête. Donc voilà,
c'est pas mal,
des jeux qui sont pas trop mauvais. Juste stand-up en vitesse, Bob Burnham qui va sortir son nouveau special en. sur Internet gratos.
OK. C'est gratuit?
Ouais. En fait, ça, son explication, ça s'appelle What. Okay. Son explication, il dit, ça fait 3 ans que je fais ça, enfin que je le prépare, que je tourne, et tout le bordel. Il dit, je suis pas Louis C.K. et moi, personne va venir payer 5 € et personne me connaît autant que lui, donc autant que ce que je fasse, on le voit.
Ça, c'est ballsy.
Et du coup, il se dit, il l'a tourné, ça a été capté il y a un mois, San Francisco, et ça va sortir très bientôt.
Et donc, tu vois sur son site, tu le télécharges.
Pas pour l'instant, hein, c'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Ouais, gratos.
Mais tu vois, ça, c'est toujours bien. Quand Louis C.K. l'a fait à 5 $ alors qu'il aurait pu le faire à 20,
ouais.
C'est ça qui fait que tu fais parler de toi. C'est ça qui va. C'est brillant. Le problème, c'est que quand les gens prennent des risques, en général, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre un risque qui est exactement le même risque qu'ils ont vu quelqu'un d'autre prendre et avoir du succès en le prenant. Ça s'appelle pas un risque à ce moment-là. Ça s'appelle un ballsless plagiat, quoi. C'est...
Ouais, ouais, clairement.
Et c'est très bien. C'est très.
Et Louis C.K. d'ailleurs, il revend son dernier, oui. Oh My God, 5 €. Pour 5 €, t'as la...
5 $.
T'as la version qui est passée sur HBO, et en plus, une autre version avec 12 minutes en plus.
Mais ça, c'est brillant, parce que moi, quand il...
C'était fort coupé, hein.
Ouais.
C'est ça que j'allais dire?
Non, mais c'est surtout qu'il était passé en télé.
Ouais, bah oui.
Et le lendemain qu'il soit passé en télé, moi, j'avais fouillé pour voir quand il allait sortir, on avait dit octobre. Et de mémoire, il passait en télé en avril-mai, un truc comme ça.
Même plus tôt, je pense.
Et je me dis, qu'est-ce qui... Pourquoi,
ouais, sur son site, il a un deal, je crois, de 6 mois. Ce sera pareil avec Aziz Ansari, ici sur Netflix. Ça reste un certain temps sur Netflix, et puis il le revendra sur son site.
Et je m'étais dit, mais qui va aller l'acheter après?
Tout le monde. Ils ont pété les serveurs en un jour.
Non, non, pas Netflix, pour Louis C.K.
Ah ben oui, c'est ça. Parce que lui, c'est pas sur Netflix, lui, il l'a fait.
Oui, il l'a fait, mais je veux dire, quand il est sorti en télé, moi, le lendemain, je suis allé sur Internet, et j'ai téléchargé.
Oui, oui, mais ici, tu te demandes qui va acheter ça.
Mais oui, mais c'est pour ça que je dis ce que je veux dire, c'est que c'est brillant d'avoir ajouté les 12 minutes.
Ouais, parce mais même sans ça, les gens auraient payé, tu sais.
Parce que moi, quand je l'ai pris le lendemain, parce que j'avais envie de le voir. Et si ça avait été payant le lendemain, je l'aurais acheté. Tu sais, ceux que t'aimes vraiment, ça te fait plaisir.
Ben oui,
même
ça.
S'ils sont riches, ça te fait plaisir, ça, franchement, de payer, je trouve. Surtout que ça va, on peut se le permettre. pardon. Et quand j'ai vu le mail, je me suis fait, tu sais, je suis toujours curieux de lire les emails qu'il envoie parce qu'il envoie un truc. Ah, it's your friend Louis.
Ouais.
Et il fait des trucs assez longs et c'est assez marrant. Et je le lis, puis après ça, je vois, il y a une version bonus avec 12 minutes en plus. Je fais, ah. Et là, je me dis, ben, je vais l'acheter. J'aurais pas repayé pour un truc que j'ai déjà vu. Mais...
Moi, si j'aurais payé, hein. Faut que je le fasse encore, je l'ai pas encore fait, mais.
Ah oui, t'aurais payé pour un truc que t'as déjà vu?
Ouais.
Pour quelle raison? Que t'as donc encore dans ton ordinateur?
Pas du tout, c'est que juste. Enfin, je me dis, à un moment donné, il faut quand même bien payer, les mecs, les gens bossent, enfin, tu vois.
Tu vas encourager le talent, en gros, c'est ce que t'as dit, il y en a assez que t'aimes pas, ceux que t'as envie de payer, quoi.
C'est comme les films, il y a des films que je vois tous les films gratos, et ceux que je vois pas, je les pirate. Si j'aime bien, j'achète le Blu-ray, c'est le minimum, quoi.
Et t'as pas un peu l'impression que c'est comme ça qu'on arrive à 150 000 € par épisode pour Joséphine Angegard?
Ok, c'est de ma faute. Je peux dire un dernier truc, sinon ça va pas aller.
Non, mais vas-y, t'as encore 2 bonnes secondes, là. Non,
ah, ça... cool.
Y a la pub qui arrive.
Première série annulée. Enfin, pas première série annulée, mais première comédie annulée.
Ouais.
We Are Men. C'est un peu logique.
Rappelle le pitch.
Des hommes qui vivent ensemble dans un complexe à la Melrose Place. Tony Shalhoub, Cal Penn, Jerry O'Connell. 2 épisodes et c'est fini. Voilà. Et
c'est comme le coach qui se fait congédier après un match. Ça veut dire qu'avant que ça soit diffusé, les gens ont fait no. Ça va pas aller.
Les Simpsons, 26e saison.
Signé?
Ouais. Et le producteur, Al Jean, a dit maintenant, le but, c'est un peu 30, quoi. Quand il te reste plus que 4 ans à tirer, franchement. Là, ils sont à 532 épisodes.
Mais t'imagines à quel point tu veux pas être le dude, genre le writer à qui on dit, tu pourrais pas écrire le series finale pour les Simpsons? Tu sais, le dernier épisode qui rate
tout. Ça a intérêt à être comme l'équipe qui a fait le film. À mon avis, ils ont dû se chier dessus. Hein.
Ouais, tu m'étonnes. Moi, j'ai trouvé bon le film.
Ouais, moi aussi.
Mais c'est vrai que tu te demandes un peu... Le film, je trouve, il y a un côté... En fait, le film, les series finale, ce qui est horrible, c'est arriver à un niveau d'excellence, c'est difficile. Arriver à un niveau d'excellence longtemps, et là, si tu fais juste un épisode excellent, ça sera pas assez.
Là, tu dois marquer les esprits.
C'est ça. Le film, c'est juste un long épisode. Ça, c'est vraiment pas facile. Et Seinfeld aussi. Seinfeld avait fait le truc, je sais pas si tu te souviens du finale de Seinfeld.
Oui, ils étaient en prison.
Ils se font arrêter, et t'as tout le monde qui vient témoigner comme de quoi que c'est des assholes. Et je crois qu'il s'était fait un peu incendier de mémoire. Et dans le coffret DVD, il explique, il dit, de toute façon, à un moment ou à un autre, on le savait, on s'est dit, gars, il n'y a aucun moyen de satisfaire les gens et de faire un épisode qui, en une demi-heure ou une heure, va faire dire à tout le monde. C'est pas une série dramatique, à la limite, t'as une chance d'y arriver. Ouais. Mais une comédie...
Tu sais qui pourrait rappeler pour le final? Conan O'Brien. Parce qu'il a écrit.
Oui, il a écrit à l'époque, ouais.
Ouais.
J'ai entendu, ça, c'est pas une rumeur?
Je sais pas, moi j'ai reçu un mail d'un auditeur qui m'a dit qu'il y avait l'épisode du Monorail qui avait été écrit par Conan.
Le fameux épisode du Monorail,
c'est tout début, ouais. Donc s'il le rappelle pour la fin, ça serait pas mal.
Ah, ça serait pas mal.
Parce qu'il connaît l'équipe, quoi.
Bah, ouais. Bah écoute, je sais pas si c'est vrai, mais le podcast se termine maintenant, donc je vais aller directement voir sur Internet, confirmer l'info et...
On en reparle la semaine prochaine.
Ouais, à la semaine prochaine. Et on essaie de trouver le DVD de Jérémy Ferrari.
Écoute, j'attends plus que ça, moi. Ouais. Je deviens dingue.
Moi, j'attends autre chose quand même. Pas non plus. Et les meilleurs jeux de mots, soit de titre de spectacle, c'est encore mieux. Mais si vous voyez un jeu de mots dans une pub ou dans quoi que ce soit, police du jeu de mots la semaine prochaine. C'est le 6e numéro de Comedy News Podcast. Merci beaucoup, Anthony.
Salut.
Et à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.